Éclairage. Une émission de la rédaction de Canal Académie. On retrouve Hélène Renard.
Madame, monsieur, bonjour. Dans le studio de Canal Académie, j'ai le plaisir de recevoir Jacques Delarosière, gouverneur honoraire de la Banque de France, ancien président de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, la BERD, et qui fut aussi directeur de cabinet de Valéry Giscard d'Estaing au ministère des Finances, qui fut aussi directeur général du Fonds monétaire international. Merci d'être venu jusqu'au studio de Canal Académie après une séance de l'Académie dont vous êtes membre depuis 1993. En octobre 2008, vous avez été chargé par la Commission européenne, à la demande de M. Barroso, de réunir un groupe d'experts pour réfléchir à la supervision financière au sein de l'Union européenne. Votre rapport a été remis le 25 février 2009. Il a été étudié par les ministres des Finances des 27 pays, membres par aussi la Commission européenne, par les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne, lors du Conseil européen des 19 et 20 mars. Et le 17 mars, je signale d'ailleurs que vous êtes passé à la Commission des Finances du Sénat, présidée par Jean Arthuis, qui vous recevait en audition. On peut vous voir en vidéo sur ce site du Sénat où vous avez expliqué le thème de la crise financière et le plan de soutien aux banques. Et aujourd'hui, nous sommes au lendemain du G20 et on a dit que votre rapport allait inspirer la position européenne lors de ce sommet. Vous nous direz ce qu'il en est. Auparavant, monsieur Delarosière, pouvez-vous nous rappeler quels étaient les membres qui composaient ce groupe d'experts ? Vous étiez 8. Comment les aviez-vous choisis ?
Ils ont été choisis en fonction de leurs compétences. Je les cite sans ordre particulier. Il y avait M. Leszek Balcerowicz, qui est un personnage très connu, puisqu'il a été le premier ministre des Finances de Pologne après la chute du mur de Berlin, et qu'il a été l'auteur de cette stratégie de la thérapie de choc qui a véritablement transformé la Pologne à la fin des années 80 et au début des années 90. Il y avait un ancien ministre des Pays-Bas qui s'appelle Onno Ruding, qui a été un des meilleurs et des plus constants ministres des Finances de son pays. Il y avait un Italien qui s'appelait Rainer Mazzera, qui est à la fois un universitaire, quelqu'un qui a été longtemps à la Banque d'Italie et qui a été aussi le président d'une grande banque, San Paolo IMI. Il y avait un sous-gouverneur de la Banque centrale de Suède, qui est particulièrement qualifié pour tout ce qui concerne la réglementation bancaire, Bâle, etc. Il y avait un Espagnol qui s'appelle José Pérez et qui est un ancien de la Banque d'Espagne, qui a eu en charge des opérations de restructuration bancaire dans les années, début des années 90, et qui a une très grande expérience. Et il y avait un Allemand, last but not least, qui s'appelle Otmar Issing, et qui était le numéro 2 de la BCE, avant qu'il ne la quitte pour prendre sa retraite. Et avant ça, il était aussi un pilier de la Bundesbank en Allemagne. Et donc, je viens de citer sept personnes, plus
et avec
moi,
vous, ça fait 8. Voilà. Pas d'anglais, alors.
Si, non, excusez-moi, il y avait un anglais,
même,
absolument.
Oui,
c'est celui qui me manquait, qui a été en fait un élément très décisif du succès de ce rapport. Il s'appelle Callum McCarthy. Et Callum McCarthy était l'ancien patron de l'organisme de supervision britannique qui s'appelle le FSA. Et il a joué un rôle important dans les débats et dans le rapport.
Quelle était donc la mission de ce groupe d'experts ? Bon, on a dit supervision financière, mais pouvez-vous expliquer un petit peu en détail ce qu'était cette mission ?
Tout à fait. Ça allait un peu plus loin que le mandat qui nous avait été donné. Le mandat était en effet centré sur la réforme de la supervision bancaire, c'est-à-dire des moyens de superviser les institutions financières en Europe. Et nous avons élargi l'interprétation de ce mandat, d'une part à la régulation, c'est-à-dire aux règles qui président au fonctionnement des institutions financières, et d'autre part à l'articulation mondiale, l'architecture mondiale, si vous voulez, dans laquelle devait déboucher le système européen que nous proposerions, car le monde étant global, il n'était pas satisfaisant de se centrer seulement sur l'Union européenne. Donc voilà un petit peu comment... Alors nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour travailler, comme vous l'avez rappelé, nous avons reçu ce mandat à la fin du mois d'octobre, on a commencé à se réunir au début du mois de novembre, et en fait, nous avons eu un peu moins de 4 mois pour remettre notre rapport.
Dans ce rapport, évidemment, il est lié à la crise. On comprend qu'il faut donc plus de régulation, plus de surveillance. Ça veut dire que c'est la fin de la croyance dans l'autorégulation des marchés.
Je répondrai de manière nuancée à cette question. Il y a eu en effet, depuis une vingtaine ou 25 ans, un mouvement de dérégulation qui a été un peu le symbole des années Thatcher, des années Reagan. On a beaucoup allégé les dispositifs de régulation et on s'est reposé en grande partie, en effet, sur l'autorégulation volontaire des établissements financiers. Mais il ne faut pas exagérer cela, parce qu'il y a eu tout un effort réglementaire au cours de ces 20 dernières années. Et la question que nous nous sommes posée était double. Premièrement, est-ce que l'effort réglementaire autour du comité de Bâle, par exemple, vous savez, c'est un comité qui est situé à Bâle, qui comprend des régulateurs de grands pays et qui précise les conditions dans lesquelles les banques doivent opérer, quels sont les capitaux propres dont elles doivent disposer, etc. Il y a eu tout un effort de régulation et pas de dérégulation sous l'égide de Bâle, qui a abouti d'ailleurs à la transformation de ce qu'on appelait Bâle 1, qui date de 1987, à Bâle 2, qui vient d'entrer en vigueur. Et la question que nous nous sommes posée, c'était est-ce que cette régulation existante est toujours bonne ? Est-ce qu'elle ne contient pas ce que les anglo-saxons appellent des incentives, des incitations, qui peuvent être dangereuses. Et il nous est apparu, en analysant cet ensemble réglementaire, qu'il y avait en effet des éléments qui pouvaient orienter les institutions financières dans leur choix vers la prise de risque plus dangereuse, vers le court-termisme, c'est-à-dire se concentrer sur des opérations à très court terme qui rapportent plus que des opérations à plus long terme mais qui financent moins bien le développement économique. Et donc, nous nous sommes penchés sur les éléments de la réglementation existante qui devaient être modifiés si l'on voulait éviter le retour à ce qu'on a appelé la pro-cyclicalité et au court-termisme qui ont caractérisé beaucoup le monde financier. Et la deuxième approche que nous avons prise en nous interrogeant sur la question que vous venez de me poser, c'était précisément, n'y a-t-il pas des pans entiers du monde financier en dehors du système bancaire proprement dit, qui lui est régulé et contrôlé, est-ce qu'il n'y a pas des institutions comme des hedge funds en particulier, ou différents fonds qui échappent au contrôle bancaire parce que ce ne sont pas techniquement des banques et qui devraient être alors en quelque sorte mises dans le filet de la réglementation générale. Et puis, il fallait également s'interroger sur l'insuffisante réglementation dans certains cas du système bancaire et d'assurance d'autre part. Donc voilà un petit peu comment nous avons...
Il y a des failles tout de même, avez souligné quelques failles.
Il y a des failles, il y a des trous et il y a des mauvaises réglementations. C'est ça un peu les trois éléments qui sont sortis de notre analyse qui est au début du rapport. Et alors les failles, il faut les attaquer, les réduire. Les trous, il faut les combler. Et les mauvaises réglementations, il faut les changer.
Il les dénoncer, oui, il les dénoncer, les changer.
Il faut les changer. Et c'est ce que nous avons essayé de faire dans ce rapport qui est axé, au fond, autour de deux thèmes clés, celui de la réglementation et celui de la supervision.
Mais c'est pas tout à fait pareil.
Non, c'est pas tout à fait pareil. Les anglo-saxons ont tendance à utiliser ces deux termes comme des synonymes. Nous avons été très méticuleux et nous n'avons pas voulu les utiliser comme des synonymes. C'est très simple à comprendre. La réglementation, c'est le corps de règles qui s'impose à une profession donnée, comme par exemple la profession des banquiers. La supervision, ce sont les contrôleurs qui sont chargés, en vérifiant chacune des institutions, de vérifier que les banques ou les compagnies d'assurance en question appliquent bien ce corps de règles. C'est un peu comme si vous avez le législateur qui fixe les grands éléments du code de la route, et puis vous avez la police qui veille à ce que les automobilistes appliquent ces codes. Et c'est important de le distinguer, parce que ceux qui sont les auteurs de la réglementation ne sont pas, en général, les superviseurs.
Ce ne sont pas les mêmes personnes,
non, c'est ça. Ce ne sont pas les mêmes personnes. Et donc, les recommandations que nous adressons aux uns et aux autres, parce qu'il y a aussi des failles dans la supervision, dans la manière de contrôler, ces recommandations n'ont pas à être formulées de la même manière et ne s'appliquent pas de la même manière selon les interlocuteurs. Alors, voilà un petit peu, si vous voulez, l'articulation du rapport. Ce rapport comprend 4 chapitres. Un premier chapitre sur les causes de la crise. Un deuxième chapitre sur ce que nous appelons la réparation de la réglementation. C'est ce que je disais il y a un instant. Il y a des réglementations à la fois insuffisantes ou trop faibles. Troisièmement, il y a un chapitre sur la réparation de la surveillance, du contrôle. Et un quatrième chapitre, qui est celui qui est le plus proche, si vous voulez, de la déclaration récente des membres du G20, qui est sur la réparation globale, comme nous l'appelons, c'est-à-dire comment...
En harmonie avec le reste du monde.
Comment insérer le système que nous préconisons pour l'Europe en harmonie dans un système global.
Nous allons marquer une courte pause. On se retrouve dans un instant avec Jacques Delarosière pour continuer cette conversation.
Révisez vos connaissances sur Canal Academy avec le dictionnaire de culture générale de Gérard Lopiès. Cet ouvrage mêle à la fois art, science, religion, politique, histoire, droit, littérature, mythologie et ne présuppose aucun savoir préalable. Gérard Lopiès nous donne des détails au cours d'une émission Au fil des pages à télécharger librement sur Canal Academy.
Nous revenons dans notre studio avec Jacques Delarosière pour examiner son rapport sur la supervision financière au sein de l'Union européenne. Vous disiez que vous aviez proposé 31 réformes. En quoi consistent ces réformes essentiellement ?
Alors, ces réformes consistent à améliorer le cadre réglementaire, c'est ce que j'ai dit à l'occasion d'une précédente question, et d'autre part, à réformer le système de surveillance. Alors, je vais être très bref, parce qu'on ne peut pas entrer dans la technique, et puis ce rapport est sur le web. En ce qui concerne la réglementation, il nous a semblé que les mauvaises incitations dont je parlais et qui émanent, dans une certaine mesure, d'une réglementation incorrecte, devaient être analysées et faire l'objet de recommandations. Je vais en citer une ou deux. Un premier élément qui pose vraiment problème dans la réglementation actuelle, c'est le côté pro-cyclique des règles de Bâle et le côté pro-cyclique des règles comptables. Je m'explique. Quand vous avez, au cours de bonnes années financières, des années où la bourse monte, l'économie prospère, les actifs prennent de la valeur, que ce soit des actifs immobiliers ou des actifs boursiers, dans ces années-là, vous avez une tendance du système bancaire à surfer, comme on dit, sur la vague, à produire plus de crédits, entrer aussi, si la liquidité est trop abondante, les taux d'intérêt trop bas, dans des montages financiers qui sont destinés à rapporter un petit peu plus que les taux ambiants, mais qui sont aussi plus dangereux. Alors, ces indications un peu à contresens qui sont dans la réglementation actuelle doivent être changées. Et c'est ce que nous disons dans notre rapport. Nous disons, par exemple, que le système de Bâle, que le système des règles comptables nouvelles, qui sont fondées sur la notion de mark-to-market, doivent être réformées pour éviter cette pro-cyclicalité excessive. Parce qu'il faut bien voir que quand ça va bien, les comptes se gonflent, le crédit augmente, tout va bien. Mais quand les circonstances se retournent, que le marché immobilier s'effondre, que les valeurs en bourse s'écrasent, qu'est-ce qui se passe ? il se passe que ces règles comptables et ces règles de fonds propres font que les banques sont obligées de vendre, mais presque d'une manière désespérée, les actifs qu'elles ont, de façon à conserver au moins un certain volume de capitaux propres. Et vendant ces actifs qu'elles ont, elles précipitent bien évidemment le mouvement à la baisse. Alors nous avons proposé dans notre rapport exactement l'inverse. Nous avons proposé que dans les périodes fastes, les banques puissent constituer des matelas de réserve, des provisions qui leur permettent d'accumuler de la ressource pour les mauvaises années, de façon à écraser un petit peu, à lisser le caractère trop procyclique des bonnes et des mauvaises années. Ça, c'est une réforme très fondamentale, qui a été d'ailleurs reprise par le groupe des 20. Ça, c'est en matière de régulation. Alors, en matière de supervision, nous avons proposé deux choses qui sont différentes. Une première chose, c'est de créer un organisme permanent de surveillance macro-financière. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que, jusqu'à présent, les risques dits de système, c'est-à-dire les risques qui peuvent entraîner une dislocation générale du système financier, pas le risque d'une institution, mais les risques de système, c'est ceux que nous avons connus et que nous connaissons encore aujourd'hui, ont été assez peu détectés, analysés et fait l'objet de recommandations dans le système qui nous a menés à ce désastre financier que nous connaissons. Et donc, il y avait bien sûr des rapports, les banques centrales faisaient des rapports, le Forum de stabilité, le Fonds monétaire international faisaient des rapports où ils disaient le crédit va trop vite, le moulin va trop fort.
Mais on les entendait pas.
Mais on les entendait pas. Alors, ce que nous avons pensé, c'est que, en tout cas en ce qui concerne l'Europe, il fallait réunir les banquiers centraux de tous les pays européens, de les réunir sous l'égide de la Banque centrale européenne.
Même ceux qui ne font pas partie
oui,
de la zone...
Tout à fait, même ceux qui ne font pas partie de la zone euro, parce que vous savez qu'il y a une formation qui s'appelle le système européen de banques centrales, qui comprend bien sûr les banques centrales qui font partie de l'euro, mais qui comprend aussi la Banque d'Angleterre,
Suède,
et
ça, oui,
la Suède, exactement, qui ne font pas partie de l'euro et qui ont leur propre, la Suède, qui ont leur propre monnaie. Et ils se retrouvent dans ce système européen de banque centrale. Alors nous avons dit, il faut créer un conseil du risque systémique. Et ce sont ces banquiers centraux, ils sont au nombre de 27, plus la présidence de la Banque centrale européenne, la Commission et quelques superviseurs qui sont ceux de l'Europe, regroupés dans les présidents des comités de surveillance. Il faut qu'ils se groupent, d'une trentaine de personnes, et que de temps en temps, ils se posent la question du marin qui est au sommet du mât. C'est-à-dire qu'il faut regarder l'avenir.
Mais ça ne suffit peut-être pas de se poser la question. Après, est-ce qu'ils ont une autorité pour agir ?
Oui, alors justement, c'est ça. Vous avez mis le doigt sur le vrai problème.
C'est vous qui avez mis le doigt sur ce problème.
Non, mais il faut d'abord que le marin surveille. S'il y a des écueils, s'il y a des icebergs, s'il y a des dangers. Ça, c'est la première chose, parce qu'il faut d'abord observer. La deuxième chose, c'est que si l'observation y amène, il faut faire des avertissements. Il faut dire attention, là, il y a danger. Et la troisième chose qui est liée à la seconde, c'est que ces avertissements doivent se traduire par des recommandations. Et des recommandations qui ne s'adressent pas à n'importe qui ne sont pas écrites de manière générale, comme ça a été trop souvent le cas dans le passé, mais qui s'adressent soit à des banques centrales, soit à des gouvernements, soit à des régulateurs, soit à des superviseurs.
Mais ce n'est pas une intrusion dans les affaires des nations ou des États ?
Et c'est peut-être une intrusion, mais si on veut avoir des systèmes d'avertissement précoces, comme on les appelle, des early warning systems, comme disent les anglo-saxons, il faut qu'il y ait le pouvoir de recommander. Le pouvoir de recommander n'est pas un pouvoir d'obliger, mais c'est un pouvoir de recommander. Alors là, de deux choses l'une, ou ces recommandations qui vont vers des destinataires précis, qui sont ceux où les déséquilibres se manifestent, où ces receveurs, si je puis dire, de recommandations agissent, comme il est proposé par l'organe dont nous proposons la création, ou ils ne le font pas. S'ils ne le font pas, alors il y a un chemin ascendant, qui est que l'absence d'action remonte au Conseil des ministres en Europe. Et là, la chose devient publique, la pression devient beaucoup plus forte, etc. Le monde n'a pas disposé, dans la période antérieure, de systèmes de ce genre. Et nous pensons que si on bâtit ça en Europe, on peut à ce moment-là beaucoup mieux dialoguer avec ce que le G20 propose de son côté, c'est-à-dire quelque chose de très analogue qui est au niveau et du Fonds monétaire international et du Forum de stabilité financière. Alors ça, c'est la macro-surveillance. Et puis ce que nous avons proposé, j'en termine là, sur la micro-surveillance, c'est-à-dire le fait que la commission bancaire examine les banques françaises, que la FSA examine les banques anglaises, etc. Là, nous avons proposé deux choses. D'abord, la généralisation des collèges de superviseurs pour les banques qui sont transnationales, parce que vous avez des banques qui n'opèrent pas que dans leur territoire domestique.
Bien sûr.
Il y en a beaucoup.
Transfrontières.
Et oui, ils
forcément.
Ont des filiales à droite à gauche dans les pays de l'autre pays européen. Et il faut donc à ce moment-là réunir ce qui commence à se faire, mais ce qui doit être généralisé d'ici la fin de l'année. Il faut réunir l'ensemble des superviseurs d'une banque qui constitue un groupe transnational et faire en sorte que ces superviseurs s'entendent sur la manière de superviser ce groupe, ce qui n'est pas tout à fait évident. Lorsqu'ils n'arrivent pas à s'entendre ou lorsqu'il y a des différences d'interprétation ou de, je dirais presque de compréhension du problème d'un groupe, alors nous avons proposé, et ça c'est un élément très nouveau, nous avons proposé qu'on crée une autorité pour les banques, une autorité pour les assurances, une autorité pour les marchés, qui serait un peu l'héritière, les héritières des autorités existantes, qu'on appelle les comités l'enfalucide niveau 3, dans notre jargon. Mais on élèverait le statut juridique de ces comités, qui s'occupent à la fois des banques, des assurances et des marchés, pour leur donner, sur des sujets précis, des pouvoirs de décision. Par exemple, s'il y a une divergence entre un pays qui abrite une filiale d'un groupe dont le siège est dans un autre pays et le superviseur du siège, s'il y a une vraie différence sur un sujet important, pour le moment, il y a blocage, parce qu'on ne s'entend pas.
Et là, ils auraient pouvoir de régler le litige.
Ils auraient pouvoir d'élever le litige à cette autorité supérieure et qui pourrait, à ce moment-là, prendre la décision
qui ferait jurisprudence,
de médiation, qui ferait jurisprudence. Et ça, c'est une proposition qui est importante et que nous avons proposée.
Quel est le rôle de la Banque centrale dans votre rapport, de la Banque centrale européenne?
Il est très important parce que pour tout ce qui concerne la macro-surveillance, je vous ai dit que c'était sous l'égide de la Banque centrale européenne, avec les moyens logistiques de la Banque centrale européenne, avec la capacité qu'ils ont à traiter l'information, à recevoir l'information confidentielle de la part des superviseurs, parce qu'il faut aussi qu'ils puissent travailler sur des chiffres, sur des éléments précis. Alors cette Banque centrale européenne travaillera sur ces informations et aidera, bien entendu, dans le diagnostic de la recherche d'éléments dangereux qui peuvent ne pas être très visibles. C'est là où mon image du marin qui est sur le sommet du mât est utile. Ils peuvent détecter ces éléments-là. Et donc, la Banque centrale européenne, et plus généralement le système européen de banque centrale, peut avoir un rôle essentiel. D'ailleurs, réfléchissons. Qui pourrait le faire, ce travail, si ce n'est pas la Banque centrale européenne? Ça ne peut pas être une banque centrale déterminée, ça ne peut pas être la Banque d'Angleterre, qui a d'ailleurs une très faible...
C'est plutôt une inquiétude par rapport
non,
à la Banque,
banque d'Angleterre
centrale européenne.
A régi un pays où il y a très peu de banques, si vous voulez. Le gros de la capacité financière bancaire est en Europe continentale. Donc ce n'est pas la Banque d'Angleterre qui pourrait être le lieu de cette recherche macro-financière. D'ailleurs, ils ne le demandent même pas. Donc c'est assez normal de le mettre en Europe continentale et en Europe continentale de prendre une banque qui est par définition supranationale et qui en plus, dans ses statuts, comprend dans cette formation de conseil général des gens comme le gouverneur de la Banque d'Angleterre, le gouverneur de la Banque de Suède, du Danemark, etc. Et donc je pense qu'il y a là une proposition qui est très innovante. J'ai reçu déjà des États-Unis des réactions extrêmement favorables parce qu'ils cherchent à faire la même chose autour de la Fed. Et en effet, c'est plutôt les banquiers centraux qui sont capables de jeter ce regard horizontale sur les problèmes d'ensemble, plutôt que les superviseurs nationaux. Parce que les superviseurs nationaux, si vous voulez, ils ont une technique d'approche qui est la technique institution par institution. Ils connaissent très bien ce qui se passe dans une banque déterminée, mais ils regardent chacun des arbres, ils ne regardent pas tellement la forêt. Et il me semble donc que les banquiers centraux sont probablement mieux placés que les superviseurs pour faire ce travail. Et ils sont aussi plus indépendants, parce qu'à partir du moment où ils détectent des choses désagréables, des choses potentiellement dangereuses, il faut que leurs recommandations puissent être impeccablement objectives. Et il me semble que c'est mieux d'avoir des gouverneurs de banque centrale qui sont par définition indépendants que d'avoir des fonctionnaires.
Dans vos quatre chapitres, les quatre chapitres de ce rapport, vous avez annoncé un dernier chapitre qui est celui de l'harmonisation globale avec les autres systèmes du monde. Alors, que pouvez-vous dire?
Oui, alors on peut peut-être en effet terminer sur ce dernier chapitre qui, je dois le dire, nous a rempli de satisfaction, parce que ce que nous avons proposé comme articulation entre ce que nous proposions sur l'Europe et sur ce que nous pensions que devrait être une architecture mondiale, est exactement, je dirais même littéralement, ce que nous avons retrouvé dans le comité du G20. Je vais en donner quelques exemples. Sur les matières de régulation, il est dit, et il est même fortement appuyé dans le communiqué du G20, qu'il fallait mettre un terme au caractère très pro-cyclique des règles à la fois du comité de Bâle et des règles en matière de comptabilité. C'est exactement ce que nous avons dit. Ça, c'est un point de fond. Et le G20 dit que, à l'avenir, les institutions financières doivent se constituer des matelas de réserve dans les bonnes années, de façon à pouvoir puiser dans ces réserves pour éviter les espèces de suremballement à la baisse dans les mauvaises années. Ça, c'est un point d'identité complète. Ce que nous avons dit sur la gouvernance des banques, sur le fait qu'il fallait que les rémunérations soient des rémunérations qui n'incitent pas au court-termisme, que les bonus des traders, il fallait les regarder sur une période longue, 3, 5 ans. Peut-être on a fait une très bonne année la première année, ben il ne faut pas distribuer. Il faut attendre que la deuxième année confirme, et la troisième et la quatrième, puis on fait les comptes à la fin. Ça, c'est une notion qui figure également, pas tout à fait dans cette forme, mais l'idée générale est là, dans le document du G20 de Londres. Un troisième exemple. Nous avons parlé des centres offshore, de ce qu'on appelle les paradis fiscaux.
Les paradis fiscaux, oui.
Et nous avons proposé des solutions qui, dans une certaine mesure, vont plus loin encore que celles qui ont été retenues. Nous avons parlé des agences de notation. Vous savez que les agences de notation ont eu un rôle malheureusement très négatif dans la propagation de la crise, parce que sur des instruments très complexes qu'elles n'avaient pas l'habitude de noter, elles ont accordé des notes 3A qui ont malheureusement incité les investisseurs, des fonds de pension, des SICAV, etc., à acheter ces produits. Et puis on s'est aperçu qu'en réalité, ils n'étaient pas du tout 3A, ils étaient de très mauvaise qualité. Et donc il faut maintenant réguler le système des agences,
oui,
de notation. Je pourrais également indiquer l'exemple des hedge funds et de ce qu'on appelle les opérations propriétaires, c'est-à-dire les opérations que certaines banques, surtout les banques d'investissement américaines, ont beaucoup faites, mais elles se sont un peu généralisées dans l'ensemble du système bancaire et qui consistaient à jouer en spéculation pure sur des instruments financiers. Nous avons également indiqué que ce genre d'activité devait faire l'objet d'une supervision beaucoup plus étroite, avec des contraintes de capital beaucoup plus élevé. Donc ça, c'est sur le fond. Alors, sur l'articulation institutionnelle, c'est exactement ce que nous avons proposé. En ce qui concerne la surveillance macro-financière, ils ont dit un peu la même chose que ce que nous avons dit pour l'Europe. Ils ont dit qu'il faut rassembler ça dans un lieu central qui serait le Forum de stabilité financière, qu'on va appeler le Conseil de stabilité financière désormais, qui comprend, comme vous le savez, à la fois des banquiers centraux et des régulateurs, et qui sera chargé, en liaison étroite avec le Fonds monétaire international, qui est également outillé pour le faire, qui portera un regard sur cette horizontalité dont je parle. Bien entendu, ils seront en contact permanent avec d'autres grandes banques centrales, et y compris le système de risque systémique que nous avons proposé pour l'Europe. Ça, c'est pour la macro-surveillance. Pour la micro-surveillance, ils ont dit des choses très semblables. Ils ont dit qu'il fallait avoir des systèmes qui soient cohérents, qu'il n'y ait pas cette faculté d'être plus facilement traité de manière plus tolérante quand on allait dans une juridiction dont la surveillance était plus bénévole, lente, plus bienveillante, comme on dit en français. Et c'est ce qu'on appelle un arbitrage réglementaire, c'est-à-dire je choisis mon surveillant parce qu'il est plus facile. Ça, le G20 souligne le caractère désastreux de ce choix et donc la nécessité absolue de rendre et le système de régulation cohérent, c'est-à-dire les mêmes règles partout, et le système de surveillance, c'est-à-dire les gendarmes doivent appliquer les règles de la même manière partout. Et ils ont proposé donc que ceci se fasse. Nous l'avons proposé également dans notre rapport. Nous avons peut-être été un peu plus ambitieux dans la manière de le formuler, mais en gros, c'est la même articulation qui est proposée. C'est-à-dire que les gens qui savent faire des règlements, comme les gens de Bâle, les agences qui font, enfin l'institution qui fait les règles comptables, se mettent d'accord et se mettent d'accord avec le forum de stabilité pour que ce qu'ils font soit mieux fait, qu'il y ait moins de procyclicalité dans le système, etc. Et ça, c'est donc une convergence de vues à laquelle j'espérais m'attendre, mais j'avoue que la similarité des approches m'a vraiment réconforté.
Oui, je suppose que cela vous fait un grand plaisir de voir que votre rapport, au fond, est modélisant d'une certaine façon.
Je pense qu'il est modélisant, structurant. Je pense aussi que la gravité de la crise est telle qu'un certain nombre d'esprits, ça se voit souvent dans le monde, quand on est devant des grands défis, il y a une sorte de convergence intellectuelle qui se fait. Et c'est pour ça qu'il n'est pas anormal, si vous voulez, que les Américains et même les Anglais, qui sont un peu de nature méfiante à l'égard de la régulation, se soient montrés beaucoup plus coopératifs.
C'est raisonnable.
Étant donné la crise, enfin, c'est très difficile maintenant de dire « mais non, il ne faut pas changer la régulation, tout ça va très bien ». Personne ne peut tenir un tel langage. Donc il y avait un soubassement qui était malheureusement favorable à cette convergence de vues. Mais dans le détail, je trouve que c'est très remarquable.
Et ces réformes que vous avez préconisées seront-elles appliquées assez vite pour qu'on voit la fin de la crise ou vont-elles prendre énormément de temps ?
Alors, il faut qu'elles s'appliquent très rapidement. Ce ne sont pas des réformes de crise proprement dites, comme vous avez pu le noter. On ne nous a pas demandé d'écrire un rapport sur le sujet « Comment arrêter l'incendie ?»
Non, ce n'est pas cela, oui.
C'est une réflexion pour plus tard. Mais cette réflexion pour plus tard, elle doit commencer à porter ses fruits très vite, parce que je crois que c'est un élément essentiel de la confiance. Vous ne recréez pas la confiance en mettant beaucoup de dollars ou d'euros à la disposition d'institutions financières en difficulté. Vous pouvez arrêter un peu la dislocation, mais l'élément de confiance, c'est le retour à un système où la règle du jeu est unique. Imaginez un terrain de football. Il faut que la règle soit la même, que ce soit pour l'équipe A ou pour l'équipe B. Il faut que les arbitres appliquent les choses de la même manière. Que quand il y a un carré jaune, il y a un carré jaune, mais il ne faut pas que ce soit une surprise. Et donc, je trouve que ça, c'est un élément de confiance. Alors, pour répondre à votre question, il faut le faire très vite, très vite. C'est-à-dire qu'il faut le faire dans les...
Avant la fin de l'année ou
je dirais il faut qu'en 2010, on ait terminé la formalisation de cette architecture. Ce n'est pas du Einstein, ce n'est pas d'une extrême complexité. Si on veut le rendre compliqué, on peut mettre 20 ans. Parce que c'est très long. En Europe, la durée moyenne de la confection d'une directive européenne entre le moment où on la conçoit et le moment où on la vote... et où on la transpose à l'échelon national, c'est 5 ans.
Oui, alors, si je m'attendais à quelque chose de déprimant.
Alors, si on continue sur cette lancée-là, comme le monde va très vite, c'est pas la dernière guerre qu'on va préparer, c'est l'avant-dernière ou l'avant-avant-dernière. Donc il faut absolument aller vite. Et pour répondre à votre question sur l'architecture financière, je crois qu'il faut finir tout ça pour 2010.
Aurez-vous un autre rôle à jouer ? Poursuivez-vous ce rôle ? Avez-vous une autre mission ?
Pour le moment, on me demande d'expliquer ce rapport. Vous avez fait allusion à ma comparution devant la Commission des finances du Sénat. J'ai aussi été auditionné par la Commission des affaires européennes et la Commission des finances de l'Assemblée nationale. J'ai été auditionné par la Chambre des Lords, qui suit avec un extrême détail ces questions, qui a une connaissance très très profonde du sujet. J'ai passé une journée complète devant deux sous-comités à la Chambre des Lords. J'ai passé le samedi dernier, c'est-à-dire il y a deux jours, à Prague, au Conseil des ministres des Finances pour répondre à des questions et expliquer ce qu'il y avait dans le rapport. Donc, si vous voulez, je suis... Et puis, je fais des émissions comme celle d'aujourd'hui. Je participe à des colloques. Il faut faire de la pédagogie. Et donc, j'essaye d'expliquer que c'est urgent. J'essaye d'expliquer qu'il ne faut pas se perdre dans les détails.
Et en même temps, c'est optimiste. Il y a des solutions qui vont aller vers une amélioration.
Absolument, je le crois.
Eh bien, c'est sur ces mots d'optimisme que nous allons vous remercier, Jacques de la Rosière, d'avoir partagé ce moment de réflexion avec nous. Merci d'être venu jusqu'au studio de Canal Académie.
Je vous remercie beaucoup de m'avoir accueilli.
Merci. Au revoir.